Nous finissons la semaine, et un peu plus que cela. Le temps change, les jours sont déjà plus courts, c'est bientôt la rentrée. Avant de retrouver nos blouses d'écoliers, un dernier petit tour au cœur de l'heure du documentaire. Après l'écoute de 4 portraits de réalisateurs de cette semaine, je vous invite à repartir un peu dans le passé, jeter une oreille sur une histoire particulière. C'est une des plus grandes affaires criminelles, l'affaire Dominici. En une nuit, celle du 4 au 5 août 1952, l'URSS bascule dans l'horreur. Ce pittoresque village des Alpes de Haute-Provence devient le berceau d'une des plus incroyables énigmes criminelles de l'après-guerre. Un biochimiste anglais de grande réputation, son épouse et leur fille âgée de 10 ans sont assassinés en bordure de la RN96 où ils avaient décidé de camper. Ce crime crapuleux n'a cessé d'alimenter les chroniques. La figure du coupable parfait a fait couler beaucoup d'encre. Illettré, mais lâchant parfois de sidérants traits d'esprit, taiseux tout en étant capable de faire rire la populace d'une saillie déconcertante, le fermier à la moustache blanche et à la ceinture flanelle régnait en maître sur un décor de pierre et d'olivier. Les gazettes de l'époque en ont vite fait un épouvantail. L'écrivain Jean Giono et le cinéaste Orson Welles se passionnent pour l'affaire. Le livre et le film inachevé qu'ils tirent de ce fait divers représentent plus qu'un témoignage. La peinture sans concession d'une région oubliée de France, bien plus que celle d'un paysan assassin. C'est cette histoire-là que Stéphane Bonnefoy et Jean-Philippe Navarre vont vous conter. Ils vous emmènent là où tout s'est joué, dans le petit village de l'URSS. Aujourd'hui, on est perché au-dessus de la vallée de la Durance, avec vue sur l'une des 5 plus belles oliveraies de Provence.
Voici l'assassin.
Orson Welles et Jean Giono, dans l'affaire Dominici. Stéphane Bonnefoy, Jean-Philippe Navarre. Que sont allés faire le reclus de Manosque, Jean Giono, et l'insatiable cinéaste américain Orson Welles, dans ce fait divers qui alimenta comme jamais depuis la fin de la Seconde Guerre la chronique judiciaire française. À mi-chemin entre la tragédie grecque et la faconde pagnolesque, l'affaire Dominici captive jusqu'à l'excès. Tant le drame a été commenté et rejoué jusqu'à l'écœurement. À l'abri d'un cirque médiatique d'une violence sans égale, alimenté par les mensonges et les revirements accusateurs de Gaston Dominici et de ses fils, tantôt coupables, tantôt innocents, Jean Giono et Orson Welles vont jouer dans ce recoin oublié de la France paysanne une partition singulière. Les deux, maîtres économes du mot et de la forme, vont rappeler la différence entre le commentaire journalistique, la spéculation, et la vision universelle de l'auteur. En quelques pages et mètres de pellicule, ces deux grands conteurs nous emportent dans les entrailles d'un pays et d'une terre aussi peu féconde que le vieux Gaston, soumis à l'interrogatoire du commissaire Sébeil.
La justice a eu le dernier mot.
En 1955, Jean Giono publie Note sur l'affaire Dominici. La même année, Orson Welles se rend dans les Basses Alpes afin de tourner les premiers plans de la tragédie de l'URSS.
Voici donc Monsieur Orson Welles, cet arbre bourré d'oiseaux, ce chien qui a cassé ses chaînes, selon Jean Cocteau, braquant ses caméras de télévision sur la tourbe des Dominici et ses comparses.
Première partie, Welles, un Américain à l'URSS.
Monsieur Jean Cocteau, en décrivant si poétiquement notre héros, a quand même omis un détail, il a oublié que l'arbre bourré d'oiseaux était un perchoir à charognard. Voilà, c'était un extrait de cet article du Canard enchaîné qui a dénoncé le tournage que Orson Welles a fait à l'URSS en, je crois, mai 1955.
Christophe Cognier.
Et il y a eu toute une campagne de presse contre ce tournage. Il n'y a pas que le Canard enchaîné, c'est un des plus virulents. Il y a eu aussi des articles dans France Dimanche, Paris Match, Le Figaro. Et aussi donc dans France Soir, qui était le journal dans lequel travaillait Jacques Chaput, mais là, qui n'était pas contre le tournage, évidemment.
Il y a eu, en effet, quelques papiers pas très agréable pour West, mais West s'en foutait complètement alors.
Well, the train's about ready to go. If you'll join us next time, we'll be taking you to some new places, see some new people. Till then, I remain as always obediently yours.
La triste affaire Dominici, dont les rebondissements inattendus passionnent encore l'opinion publique, n'est pas éclaircie définitivement. Elle est enveloppée d'une ombre encore compacte. Mais Orson Welles, lui, estime avoir le droit absolu et incontestable de traiter de ce problème à sa manière et contre la volonté expresse des autorités compétentes. Ce serait assurément comique si ce n'était incongru. Que penserait-on Que penserait Orson Welles lui-même si un cinéaste français s'avisait d'aller tourner aux États-Unis contre le gré des autorités nationales?
Vous me demandez pourquoi Welles venait se mêler de cette affaire-là? Qu'est-ce qu'il voulait faire? Réhabiliter cet assassin? Ou l'enfoncer? Etc. Toutes les hypothèses encore jaillissaient. Puis enfin, l'affaire de Ménézi, ça a toujours été un feuilleton.
Jacques Chaput, c'est un journaliste de François à l'époque, François qui était dirigé par Pierre Lazareff. Donc c'est Lazareff qui a demandé à Chaput de faire un rapport pour Orson Welles, parce que Chaput était un des trois journalistes à l'époque qui était spécialisé dans l'affaire Dominici.
Vous venez parti pas clandestinement, vous êtes parti tranquillement, peinardement faire ce truc-là.
En 1955, Welles signe un contrat avec la première chaîne de télévision privée lancée en Angleterre, ITV. Censée concurrencer la BBC. Ambitieuse, elle confie une série de 26 épisodes au cinéaste américain baptisé « Autour du monde avec Orson Welles ». Seuls 6 épisodes seront à peu près achevés. Le 7e, la tragédie de l'URSS, est dédié à l'affaire Dominici.
Orson Welles m'a reçu, très aimable. Nous avons discuté, il m'a dit « Bon, on part à l'URSS après-demain ».
Alain Paul, 1999.
Je suis parti avec la voiture, le matériel, et en route direction l'URSS. À l'époque, il n'y avait pas d'autoroute. On prenait la N7, et puis on enfilait la N7 jusqu'à Avignon, puis on tournait. J'ai couché, je ne me rappelle plus où. Et à 10h, moins 5, je me suis pointé. Et puis au détour d'une rue, alors là, j'ai eu une vision extraordinaire, je m'en souviendrai toute ma vie. C'était Citizen Kane en personne. Un homme droit, en haut d'un mur en ruine, dans sa grande cape noire, avec le chapeau un peu comme... Citizen Kane, et c'était Orson Welles.
L'arrivée de Welles, c'est un événement, surtout que lui en fait un événement. Dans des entretiens, il dit que lui va résoudre l'affaire, qu'il y va pour trouver le coupable. Enfin, il y a un côté un peu orgueilleux et prétentieux de sa part, en tout cas présomptueux, puisqu'il n'a pas trouvé le coupable. Parce que le contexte, c'est après le premier procès où le vieux Dominici est condamné. Et il y a la moitié de la France qui est contre cette condamnation, qui pense qu'un vieux patriarche, un vieux pépé comme ça, qui a trimé toute sa vie, qui en plus était résistant, ne peut pas être un meurtrier d'un couple anglais et surtout d'une petite fille dont le crâne est quand même fracassé par un coup de crosse, donc c'est quand même un crime très dur. Et donc il y a une contre-enquête qui est diligentée et Welles arrive à ce moment-là.
C'est le 4 août au soir, aux environs de 7h15, que Sir Jacques Drummond, venant de Digne, arrête sa voiture Hillman au bord de la Grande Terre, à cet endroit précis.
Exactement ici.
Exactement. Alors qu'il sortait de la voiture son matériel de camping, arrivait sur la route, poussant son troupeau, descendant de la colline, le vieux Dominici. Il menait ses brebis à sa Grande Terre, qui se trouve là-bas.
Avant de faire un plan, il vous dit, vous allez me tourner ça, vous mettez tel objectif. Il regarde le filtre de la caméra et il dit, vous avez trop de ciel. Rien qu'en voyant le reflet sur le filtre, il voyait le cadrage de la caméra, connaissant l'angle de l'objectif. Ce qui prouve qu'en dehors d'un metteur en scène, c'était un technicien remarquable.
La nuit venue, Sir Jacques et Lady Drummond s'endormaient sur deux simples lits de camp posés aux côtés de la voiture. À l'intérieur de l'Hillman, allongée sur les coussins, la petite Elisabeth, à son tour, s'endormait.
Dans la voiture.
Dans la voiture.
Et dans le matin?
À 5h30 le matin, Gustave Dominici, constatant le désordre et apercevant les cadavres, arrêtait un motocycliste qui passait sur la route et lui demandait d'aller prévenir les gendarmes.
Pour ce film, Welles réalise des entretiens inédits avec les deux fils de Gaston, Gustave et Clovis, mais aussi d'autres protagonistes plus secrets, des personnages plus puissants que nature, comme le cheminot Paul Maillet ou le notaire de l'URSS, échappé d'un roman de Zola ou de Charles-Louis Philippe.
Est-ce que vous pensez que Gaston Dominici est l'assassin des Drummond?
Ah, ça, là, je ne peux pas vous répondre.
Est-ce que c'était un homme coléreux, Gaston Dominici?
Un peu.
Est-ce qu'il buvait?
Ah, ça, je n'en sais rien.
Vous l'avez bien connu?
Oui.
Il était près de ses sous.
Eh?
Il était près de ses sous. Et avare.
Ah, très avare.
Et il aimait sa terre.
Ah, toujours.
Et il était extrêmement gêné lorsque des gens venaient piétiner son sol.
Oh, ben, pas toujours. Il était quelquefois même très aimable.
Ce film, Welles ne le finira pas. Il restera invisible durant près de 45 années, jusqu'à ce qu'un réalisateur français, Christophe Cognier, mette la main sur le montage inachevé de Welles.
Voilà, donc c'est à partir de ça, moi, que j'ai pu reconstituer sur les trois bobines que j'avais vues, le travail qui a été fait, en fait, le travail de montage, et essayer de comprendre ce qu'ils avaient, où ils en étaient du montage, en fait. Voilà. C'est des assistants qui font la transcription de tout ce qu'il y a sur les rushs, quoi. On a la description des plans, donc jeu des vannes le long du champ des Dominicis, champ des Dominicis irrigué par Gustave, temps gris, l'eau ruisselle sur le champ, à chaque fois c'est un plan en fait qui est décrit. Et puis quand il y a des entretiens, il y a interview de Paul Maillet, temps gris, interview de Paul Maillet suite avec Orson Welles en amorce, il brouillasse, fin de la quatrième bobine, arrivée de Paul Maillet avec Orson Welles en amorce, départ, interview maître de l'orme, etc. Et puis on a aussi le compte-rendu des entretiens. Orson Welles, bonjour, présentation de Clovis à Orson Welles par Chapu. Chapu, monsieur Orson Welles qui est le metteur en scène. Monsieur Chapu, maintenant Clovis Dominici. Clovis Dominici qui est le fils de Gaston Dominici. Orson Welles, oui je sais. Chapu, vous savez, c'est lui qui dans cette affaire a une attitude extrêmement digne. Orson Welles, oui je sais, etc. Donc moi j'avais ça aussi comme document. Il y a donc trois bobines images avec trois bobines son qui leur étaient associées, donc il y avait trois bobines. Donc quelque chose qui était un ours, quoi, ce qu'on appelle un ours, qu'on pensait très peu travailler. Et en fait, c'est en faisant ce travail que je pense que c'était au contraire déjà très abouti, que c'était quasiment fini, en fait, le montage. Et il manquait juste ce qu'on avait dans les autres films de la série, c'est contre-champ avec Orson Welles qui parlait face caméra. It may look to you like a great torrent of water rushing down out of the hills, but it's...
Pourquoi est-ce qu'il abandonne ce film en 1955, François Thomas ?
Il y a deux phénomènes distincts. L'un, c'est que Welles remet toujours à plus tard le montage. Il est très difficile pour lui de terminer de fond en comble un projet parce que, une fois qu'il a terminé son envie, ça n'est pas de faire le montage tout de suite, c'est de se précipiter sur un autre projet à filmer. Et puis, il imagine que, plus tard, il pourra faire le montage en parallèle de deux projets, trois projets, quatre projets. Donc il laisse en plan l'URSS comme il laisse en plan la totalité des autres émissions qu'il a réalisées entièrement ou partiellement. L'autre difficulté, néanmoins, là, spécifiquement sur l'URSS, et qui explique que celui-ci n'ait pas été terminé, là, il y a une raison qui peut-être est une raison politique, toujours est-il que Welles est... Louis Dolivet, son producteur français qui servait d'intermédiaire pour la production télévisée britannique, n'ont pas demandé l'autorisation de tournage à l'URSS. Le CNC a beau jeu de lui rétorquer qu'il fallait la demander avant, et donc que dans ces conditions, le métrage impressionné ne pouvait pas sortir de France. Donc, évidemment, ne pouvait pas être diffusé à la télévision britannique. Il est évidemment possible que là-dedans, il y ait une part de strict respect de la réglementation et peut-être une part de censure. En tout cas, certains ont réclamé la tête du film.
Comment vous avez eu accès aux archives du film, Christophe Cognier ?
J'avais rencontré Véronique Lotte, qui s'occupait de Greyfilm C. Pierce. Elle avait dit, voilà, j'ai ces bobines de Welles dont on ne sait pas trop quoi faire, conservées à la Cinémathèque dans le fond de Bois d'Arcy. Donc j'y suis allé, en fait, à Bois d'Arcy, j'ai pris rendez-vous. Il y a une certaine émotion aussi à voir un film que personne n'a vu de Welles, ou presque personne n'a vu. On a décidé assez vite de donc les montrer telles quelles, avec juste en plus un commentaire qui, non pas se substituait à celui qui manquait de Welles, mais qui donnait des éléments qui permettaient de comprendre, en fait, et de suivre le récit. Et en même temps, qu'on puisse suivre aussi l'histoire de la restauration du film un petit peu. Donc très vite, on a conclu qu'il fallait encadrer ce film par un autre film, disons, qui racontait les conditions dans lesquelles Welles avait fait ce film et les conditions dans lesquelles nous, on l'avait découvert et on avait travaillé dessus, pour que là aussi le spectateur sache ce qu'il regarde, c'est-à-dire ne pas faire comme si mes interventions étaient celles de Welles.
Cette séquence évoque la dernière journée de la famille Drummond. Alors qu'ils passaient des vacances sur la Côte d'Azur, les trois Anglais sont venus à Digne pour assister à une grande feria. Le soir venu, ils s'arrêtent pour camper au bord de la route sur un chemin qui mène à la Durance, à 200 mètres de la ferme de Gaston Dominici. Leur corps repose maintenant dans cette région, au cimetière de Fort Calquier.
He's a Drummond family.
That's Sir Jack and...
Yes, Sir Jack, Lady Anne and Elizabeth.
But Elizabeth was older, wasn't she, at the time of the murder, than that photograph?
She was 10 years.
10 years when she was killed.
Je le suivais avec cette caméra comme un chien suit son maître. Et puis il me disait... Alors je faisais un plan à la sauvette. Et puis après, il obtenait l'autorisation par intermédiaire de... ou de Chapu ou de quelqu'un du pays ou de pouvoir parler à un membre de la famille Dominici. À ce moment-là, on installait la caméra et on prenait.
Effrayé par le bruit des balles, voyant ses parents tomber sous les coups de l'assassin, Elisabeth s'enfuit. Elle court ici, elle s'achemine vers la Durance. Mais l'assassin, l'endroit où il se trouve près de la voiture, arme sa carabine et tire. Une balle siffle. Mais cette balle ne tuera pas Elisabeth. L'assassin, toujours près de la voiture, appuie sur la gâchette. L'arme ne répond pas. Le chargeur est vide. Il plonge dans le chemin et il voit la fillette s'enfuir.
Moi, il me disait, alors explique. Hein ? Alors qu'est-ce qui s'est passé ? Et hop, la caméra tournait et j'expliquais. C'est tout.
La petite Elisabeth entend les pas de l'assassin. Sa peur grandit. Elle sent l'homme qui approche d'elle. Et aveuglément, sans réfléchir, elle se jette sur le seul chemin qui s'offre à elle, un ravin qui tombe sur la Durance. Elisabeth est surprise par l'abrupte du ravin. Elle tombe. Et l'homme, sans pitié pour cet enfant, à deux reprises, il lève sa carabine et à coup de crosse, fracasse le crâne de la petite fille.
Les films de cette série, en particulier celui-là, fonctionnaient sur trois narrations. Une narration qui était racontée par la mise en scène, disons. Une autre narration qui était prise en charge par des gens que Wells interviewait, des passeurs. Là, en l'occurrence, le passeur, c'était Jacques Chapu. Et un troisième narrateur, c'était Wells qui, donc s'adressant directement au spectateur, racontait à sa façon l'histoire, donc là en l'occurrence l'affaire Dominici. Et Alain Paul m'avait dit qu'ils avaient bien enregistré ces commentaires de Wells sur l'affaire Dominici. Donc on a envoyé en fait via la Cinémathèque française et via Greffim Sipirs des demandes un peu dans toutes les cinémathèques partenaires dans le monde, et personne n'avait répertorié ces commentaires. Mais il n'est pas impossible qu'un jour ils réapparaissent.
Formain ?
Oui, monsieur.
Vous habitez à L'Urs.
Oui.
Vous étiez un ami des Dominici.
Oui, monsieur. Je suis été à l'école avec Gustave Dominici. Avec tous les aînés, presque. Quoi, sauf Gustave, Clovis et Ida. Voilà.
Ainsi, vous alliez chez les Dominici très facilement. Vous étiez un familier.
Et j'allais à l'école chez eux parce que nous sommes été à l'école ensemble, puis nous étions dans le même pays. Alors, comme eux venaient chez moi, moi j'allais chez eux. Voilà.
Et c'était ainsi, parce que vous aviez libre accès à la ferme, que Gustave Dominici vous a fait des confidences. Quelles confidences vous a-t-il fait ?
Wells avait tout à gagner à montrer des personnages, presque tous hauts en couleur. Sa façon de mettre en confiance, de mettre à l'aise les interviewés, permettait de faire véritablement ressortir les personnalités.
Le jour du crime, c'était midi, quand on a quitté le chantier avec Clovis, par curiosité, nous sommes été voir le lieu du crime. Et quand je suis arrivé en haut, nous avons visité de partout, sur la route, quoi, au bord de la voiture, et nous sommes été dîner. À ce moment-là, quand nous sommes été dîner, nous avons commencé de s'installer pour dîner sur le banc et la table, et le père Dominici est arrivé. Je vous l'explique exactement comme c'est. Alors, il a sorti deux bouteilles de pastis. Il m'a dit, Paul, toi, tu es le plus jeune, va chercher l'eau à la fontaine. Et je suis été chercher l'eau à la fontaine. Et à ce moment-là, M. Perrier, juge d'instruction, est arrivé, et le père Dominici a offert le pastis. Et M. le juge a dit, non, M. Dominici, je vous demande tout simplement un verre, avec de l'eau dedans, un verre d'eau. Et le juge d'instruction a sorti de sa poche la bouteille d'alcool de Ricolet avec deux morceaux de sucre. Il a bu ça et il a dit au père Dominici, chaque fois que j'aurai besoin d'un renseignement, chaque fois que j'aurai besoin de quelque chose qui est utile pour mon travail à moi, il faudra que vous fassiez ce sacrifice, que vous fassiez ceci. Oh, le vieux, il dit, mais c'est où creuser, dit un patois, dit, c'est où creuser, dit que, mais même au daquel autre, il y en a sabourin, dit, il rien vu, il rien entendu.
Qu'est-ce que ça veut dire en français ?
Et qu'il n'avait rien vu, rien entendu. Et que lui, il n'avait rien à voir dans le choses du crime, là.
Wells avait une grande capacité comme ça à attirer les gens à lui. Et puis, il faut voir quand même ce que ça représentait. Quelqu'un qui est en costume trois pièces, avec un cigare qui est grand, qui est imposant, qui est très élégant, avec une femme qui l'attend dans la limousine, qui sort de sa limousine et qui va comme ça interviewer des paysans à L'Urs, comme ça, qui travaillent la terre de manière très dure. Une espèce de contraste très fort. Mais il arrivait à faire que les gens soient à l'aise avec lui. Et là-dessus, il y a une part de charme, je pense, de Wells, qui est sûr. Là, j'ai une feuille. On a tous les comptes des tournages, c'est-à-dire... voilà, donc on a facture Kodak Pâté, 127 444 francs. Après, on a les salaires. Son, 25 000. Carrère 50 000, Alain Paul caméraman 250 000, salaire Guy Marin assistant 55 000. Donc on a les électriciens, puis après on a donc le poste 22, voiture Orson Welles 366 425. On voit fond hôtel Negresco, Orson Welles, c'est comme ça que j'ai su qu'il était à l'hôtel Negresco.
François Thomas.
Tout en faisant partie, si l'on peut dire, le terme ne devait pas exister à l'époque, de la jet set, Welles était aussi quelqu'un qui était extrêmement porté sur la compréhension de la pauvreté. C'est quelqu'un qui se mêlait de façon extrêmement naturelle, sans la moindre once d'ostentation, aux classes les plus populaires.
Sur cette affaire plus précisément, je pense qu'il y a une vraie fascination, le mot est un peu fort, mais un vrai intérêt de Welles pour ces gens, parce qu'il découvre quelque chose, je pense, qu'il n'imaginait pas. Enfin, il découvre une pauvreté, il découvre une façon d'être, des gestes, des pudeurs aussi. Donc je crois qu'il veut ça, Welles, hein. Il disait qu'il veut montrer toute la gamme humaine. Et pour ça, c'est, je pense, qu'un de ses principaux intérêts pour faire ce film est là, en fait.
Il me demandait souvent, cadre-moi où on voit mon épaule et mon oreille. Il fallait que je voie l'oreille et l'amorce de la tête. C'était très important parce que ça permettait, à son avis, d'ailleurs ça se faisait pas à l'époque, mais c'était lui qui avait encore inventé ce truc, de l'intervieweur que l'on voit de dos avec une petite amorce pour marquer sa présence.
C'était Welles essayiste, et Welles essayiste dans le cas de Minici particulièrement sobre. Welles insistait beaucoup sur le son direct. Il a été l'un des premiers à obtenir du son direct pour ce type d'émission qui généralement était entièrement post-synchronisée. Et on sent aussi la volonté de mise en scène, notamment lorsqu'il dirige le journaliste Jacques Chaput. Et on sent également ses manipulations, dans le bon sens du terme, du montage. Autrement dit, c'est une œuvre extrêmement cohérente. Et sans être du même degré d'ambition que d'autres de Welles, une œuvre ambitieuse sur le plan judiciaire et politique pour 1955 dans le cadre de la France.
Now this is the gun used in the crime.
Voici Gustave qui montre où se trouvait l'arme du crime.
Oui.
Quelques heures après, c'est Clovis qui vient.
Oui.
Et qui montre également la même place.
La même place.
Puis, ce qui est plus important encore,
oui,
c'est le criminel. C'est le vieux fermier qui vient et qui n'hésite pas. Il montre avec sa canne exactement la même place pour la même arme.
Vous le voyez souvent à l'image en même temps que les personnes qu'il interviewe, mais ensuite, il fait quantité de raccords après coup. Et cela de façon absolument fascinante. Il sait exactement ce dont il a besoin, et donc il se fait filmer en jetant un coup d'œil à gauche en début de plan, c'est-à-dire vers la personne avec laquelle il est toujours censé converser. À la fin du plan, il regarde au contraire vers la caméra pour nous prendre à témoin. Il fait semblant de traduire en direct ce que lui disent les personnes pour le public anglo-saxon. Il y a une recréation de montage qui va beaucoup plus loin que ce que l'on faisait à l'époque, et qui, encore une fois, préfigure absolument ce que lui-même fera dans d'autres émissions par la suite.
Il arrivait à 6h du soir, et à midi, il était encore à la salle de montage. Il ne sortait que pour fumer son cigare et faire pipi, mais il restait là. Il ne faisait même pas venir un sandwich, il buvait un coup de scotch et il continuait son montage. Et je vous assure que quand il avait fait un montage d'une suite de, j'allais dire, des briques qu'on apportait, et puis qu'il est monté, on était épaté que c'est un sens. Alors, on regardait ça, et il disait, hein ? Malheureusement, il ne s'occupait pas du montage tout le temps.
Ce que j'ai vu avec lui, ce que j'ai vécu avec lui, fait qu'il était seulement, pas un documentaliste, hein, mais un type qui expliquait une histoire. Vous voulez connaître l'affaire de Minici ? Je vous la raconte. C'était un conteur.
Dans les articles qu'il a écrits à l'époque, Jacques Chaput, en 1955, au moment où nous en sommes à la révision, un complément d'enquête autour de l'affaire de Minici, à ce moment-là, Gaston de Minici a déjà été condamné à mort l'année précédente. Dans un de ces articles, donc, Jacques Chaput expose sa propre théorie, qui est la suivante. Gustave de Minici, l'un des fils, a trop utilisé l'eau qui normalement était contingentée, et cela provoque un éboulement qui risque de perturber la voie ferrée. à ce moment-là, c'est une tragédie absolue pour la famille qui, probablement, devra verser des dommages et intérêts à la SNCF.
Ça le travailler, vous comprenez?
C'est déboulement existant. Travailler. Vous ne pensez pas que Dominici a pu dormir la nuit?
Je pense pas pour ça, parce que le responsable du crime, pour moi, c'est l'éboulement.
Selon Jacques Chaput, l'explication, c'est que la famille n'a cessé de faire des allées et venues pour surveiller l'eau, la terre, etc. Et les Drummond, la famille victime du triple assassinat, peut-être se seraient énervés en pensant être le sujet de ces allées et venues, de ces observations. Et encore une fois, ce qui nous manque ici, c'est... la voix off, quelle conclusion où elle serait tirée de ces questions sur l'eau, lorsqu'il parle de cette émission ensuite dans un ou deux entretiens, c'est bien sur l'eau qu'il fait porter l'attention. En revanche, il ne parle jamais de l'éventuelle culpabilité des uns et des autres.
Allez, c'est pas le moment de craquer. Ils n'attendent que ça, vous le savez bien.
Oh. Qu'on dise que j'en ai tué deux, ou j'en ai tué trois, je m'en fous, mais qu'on dise que j'ai tué la petite, ça c'est pas vrai.
Deuxième partie, Jean Giono et le roi Gaston. Parmi les documents retrouvés par Christophe Cognet dans les archives du film de Wells, une note de restaurant. À table, assis face à face, le cinéaste américain et l'écrivain originaire de Manosque, Jean Giono. Il n'y a pas d'autre trace de cette rencontre au sommet entre les deux commentateurs de l'affaire Dominici. On imagine Giono lui évoquer ses souvenirs, toujours intacts, du procès auquel il a assisté quelques mois plus tôt, en novembre 1954.
Ici Frédéric Potcher, qui vous parle du palais de justice de Digne. Le procès du vieux Gaston Dominici a commencé à 9h comme prévu. Puis on annonce la cour. Et nous voyons paraître l'accusé. Cheveux blancs, crâne rond, œil merveilleusement vif. Gaston Dominici est une copie un peu rude, mais une copie de Pétain. On lit l'acte d'accusation. Comme il y est dit que le vieux est buveur et violent, il sourit. L'interrogatoire commence alors vers 10h30 et le vieux se lève, aussi vivement que le ferait un jeune homme.
Jamais été condamné, moi. Juge de paix, je sais même pas ce que c'est, je suis innocent. Mais vous, monsieur le président, vous me croyez coupable?
Je n'ai pas à croire ou à ne pas croire.
Vous me le faites bien comprendre.
Si ces notes sur l'affaire Dominici, publiées par Giono à l'issue du procès, ont permis à Wells de mieux appréhender ce recoin oublié des Basses Alpes,
Dominici.
Elles ont également permis à Jean Gabin de façonner le rôle de Gaston dans le film que réalisa Claude Bernard Aubert autour de l'affaire.
Vous pouvez le dire.
Car sous la plume de l'auteur des âmes fortes,
la nuit du crime, vous êtes sorti.
La scène du crime se change en scène de théâtre.
Vous êtes effrayé.
Comment ça, je me suis effrayé?
Je lis dans le rapport.
J'ai assisté au procès à une place qu'on m'a désignée et qui était de choix, juste derrière le président. Je voyais très bien l'accusé, à 3 mètres de moi. J'ai vu de face et à la même distance les témoins pendant qu'ils témoignaient. Je pouvais voir les visages de tous les jurés.
Selon le temps et ce qu'on mangeait, mais je suis pour un ivrogne si c'est ce que vous pensez.
J'ai regardé et écouté jusqu'à en être brisé de fatigue.
Ce que dit Giono dans ce texte assez bref sur l'affaire Dominici, c'est d'abord le récit d'un écrivain, il a toute une production romanesque extrêmement importante, comment cet écrivain, basé non loin du procès de Digne où se déroule l'affaire Dominici, va aborder ce procès et va lire en quelque sorte cette affaire qui se déroule sous ses yeux.
Alors Denis Salas, qu'est-ce que ces notes sur l'affaire Dominici de Jean Giono vous racontent en qualité de magistrat ?
Ce qui est intéressant, c'est qu'il va porter un regard décalé par rapport à la scène judiciaire et au code normatif du procès. Et ce qui est intéressant, c'est présent ce décalage entre la vision du romancier, d'une part, et le récit que propose la scène judiciaire, d'autre part.
Au moment où je classe ces notes, prises pendant le déroulement du procès, c'est dimanche après-midi. Le jury et la cour sont en délibération dans la salle du conseil. Je n'aimerais pas être à leur place. Je suis bourrelé de scrupules et plein de doutes. Si je fais le compte, il y a autant de preuves formelles qui démontrent la culpabilité de l'accusé que de preuves formelles qui démontrent son innocence.
Ce qui m'a énormément frappé en tant que magistrat, c'est ce que j'ai appelé la radiographie qu'il effectue du procès. Il voit une chose essentielle, en tant que romancier, pas du tout en tant que spécialiste, ni en tant que juriste. Il voit une chose essentielle qui est cette dualité
entre, d'une part, un dossier élaboré par un juge d'instruction qui est soumis à une cour d'assises et un moment d'oralité où la cour d'assises va entendre les témoignages et se faire une conviction. Et ce qui passionne Jeannot, c'est précisément cette dialectique entre, d'un côté, cette vérité qui est dans le dossier, qui conclut à la culpabilité d'un homme, et cette remise en cause de cette vérité dans l'audience, moment d'oralité, où tout va être discuté et d'où va jaillir une autre vérité.
Alors, vous avez donc dit et pas fait. Pourtant, votre fils Clovis, en voyant la carabine du meurtre, est tombé à genoux.
Mais pourquoi vous ne l'avez pas arrêté, alors?
Vous l'accusez?
Mais... je pense que c'est lui qui l'a fait, mais en tout cas, c'est pas moi.
Si avec une tête comme ça, il est coupable, je ne crois plus à aucun visage, jamais.
Que tu le veuilles ou non, la mort est dans le dossier.
Ce dossier, ce qui est absolument extraordinaire, ce dossier, c'est qu'il en fait un personnage. Le dossier est impatient, le dossier attendra, le dossier l'embête énormément, parce que le dossier est une pierre qui pèse très lourdement dans les débats et qui est un point sur lequel s'accroche le président de l'audience, dont Jeannot parle assez peu, mais qu'il a quand même placé derrière lui dans la salle d'audience pour qu'il voie de près le père Dominici. Et ce président a pour caractéristique de se référer constamment à ce dossier.
Bon, alors en somme, on fracasse le crâne d'une enfant et ça vous laisse lointain.
Ben non, je suis pas lointain.
La cour a le souci évident de ne pas s'écarter du dossier. Ce souci est, paraît-il, un devoir.
Et vous parlez de ce soir-là, j'avais autre chose en tête avec l'éboulement sur la voie ferrée.
Je ne me soucie que des trois cadavres et de vos aveux.
Il y a un fait. L'accusé a avoué. Il a avoué quatre fois. La défense nous dit qu'il s'est désavoué quatre fois. Chaque aveu a été suivi d'un désaveu. Il est archi prouvé qu'on n'a pas obtenu ces aveux par la violence. L'accusé a été interrogé au palais de justice de Digne, sous le contrôle permanent de magistrats d'une probité à toute épreuve et d'une conscience très sensible. Cette succession comme désinvolte d'aveux et de désaveux est inexplicable. Je ne peux me l'expliquer que par ce que j'ai vu et constaté à l'audience.
Commissaire, j'ai pris les taches de sang sur la route, là, comme vous me l'aviez dit.
Le vieux médecin de campagne,
mais c'était pas bon.
Et si j'insiste sur cette appellation, c'est qu'on y a insisté, a toutefois mécontenté le dossier encore une fois.
Par contre, celle du puisard,
le docteur Dragon.
Épatant.
Il n'y avait pas de sang sous le corps de Lady Anne. Par contre, de l'autre côté de la voiture, derrière un petit puisard d'arrosage et entre ce puisard et les buissons, j'ai relevé une grosse mare de sang. Elle avait imprégné la terre sur 3 cm de profondeur. C'est la seule et unique fois où l'on parlera de cette mare de sang. Dit et oublié aussitôt, on n'en parle plus. Le dossier n'a pas d'oreille, il n'a même pas d'intelligence. Il ne contient que des procès-verbaux.
Dites-moi, je voudrais comprendre.
Mireille Sacotte, quelles sont les circonstances qui vont conduire Jean Giono à assister au procès de Gaston Dominici en 1954?
Ça a été un fait divers tellement retentissant que tous les journaux voulaient en parler, y compris des journaux qui n'ont rien à faire avec les faits divers. Donc, le journal Art, c'était André Parineau qui le dirigeait, s'est dit quand même, il faut qu'on soit parmi eux. Et donc, il s'est dit que le mieux, ça serait de couvrir l'affaire à travers Jean Giono, poète, écrivain et surtout du coin. Donc, qui connaissait tout le monde et qui pouvait avoir un témoignage intéressant et qui, en plus, avait pour personnages principaux les paysans des environs. Giono a quelque chose en plus, c'est qu'il est très familier de la littérature antique. Et la littérature antique, à ses yeux, souvent peut se ramener à un fait divers. Regardez l'histoire des Atrides. Au fond, c'est Agamemnon, c'est un mari qui revient chez lui et qui trouve sa femme, Clytemnestre, avec un autre monsieur qui s'appelle Égiste. Et donc là, ils se battent, ils se tuent, et voilà. Donc il arrive, Giono, toujours à rapetisser ce qui est grand et à démesurer ce qui est petit. Et c'est ce qu'on va voir là dans la façon de traiter aussi l'affaire Dominici.
Cher Jean Giono, j'ai noté cette phrase. Quand les mystères sont très malins, ils se cachent dans la lumière, l'ombre n'est qu'un attrape-nigaud.
Oui, parce que généralement on croit que le mystère est fait par de l'ombre, mais non par l'excès de lumière. L'excès de lumière, c'est également du mystère. Si vous avez l'occasion de voir dans un pays du Sud un jour de grand soleil, vous verrez que si le soleil est véritablement très ardent, vous verrez que c'est très mystérieux, beaucoup plus mystérieux que l'ombre. La lumière est très mystérieuse quand elle est éclatante.
Il a tendance à voir la scène comme une scène théâtrale, à camper des personnages qui ne sont pas les personnages de l'audience judiciaire, mais qui sont les personnages de son imaginaire romanesque. Il fait du père Dominici, il en fait un roi barbare, dit-il. Donc il mythifie complètement le vieux Dominici. Sa femme est également mythifiée. D'autres personnages sont typés énormément. Donc il y a un bestiaire jeunesque qui surgit de ce procès qui est tout à fait surprenant.
C'est Dominici, il est démesuré. Il dit que, par exemple, Marie Dominici, la femme de Gaston, elle entre dans la salle, c'est Hécube, la reine de Troie. En réalité, c'est une petite vieille qui fait ce qu'elle peut, qui n'a sûrement jamais eu la parole de sa vie, qui a eu 9 enfants à la suite. Bon, Marie Dominici, elle est effacée, disons. Et il essaye de la tirer vers quelque chose de beaucoup plus grand qu'elle.
La femme de l'accusé entre dans la salle des assises. C'est Hécube, une petite femme noire, torréfiée jusqu'à l'os. Reste un visage où les rides sont si nombreuses qu'elles font comme rayonner les cendres de la peau. 2 grands yeux largement ouverts. Elle vient à la barre des témoins et sans qu'on l'y invite, elle s'assoit. Et je suis satisfait qu'elle se soit assise de son propre chef, comme une reine qui sait son droit.
Alors,
elle regardera les présidents qui l'interrogent. Elle répondra par oui et non, sans phrase. Elle a encore moins de mots à sa disposition pour s'exprimer que l'accusé. Mais elle s'exprime magnifiquement.
Est-ce que vous pourriez nous parler de Gaston Dominici, votre mari?
Mon mari a toujours été travailleur. Nous avons élevé notre famille comme on a pu. Et puis voilà. Quand on a élevé 9 enfants, on savait qu'il y a de quoi. De quoi travailler. On a pris de la peine.
Ces personnes deviennent des personnages de Giono. Il essaye du moins de les faire devenir ces personnages.
Mireille Sacotte.
De les tirer vers le haut, d'en faire quelque chose. Et en même temps, il s'aperçoit bien que ça ne marche pas, parce que c'est des paysans simples, pauvres, qui n'ont pas de caractère particulier. Et alors il écrit en même temps, au début, dans le premier des textes, il parle de la femme d'un des fils Dominici, en disant « c'est une petite dinde qui se prend pour Dieu la mère ». Bon, parce qu'au début, il avait un peu espéré en tirer quelque chose. Il n'y est pas arrivé. Ensuite, le petit-fils, par exemple, c'est celui qui ment tout le temps.
J'ai menti.
On est sûr que quand il dit quelque chose, c'est l'inverse qu'il faut croire. Et ainsi de suite.
Et je vous adjure de dire la vérité.
Je vais la dire.
Vous l'avez déjà dit. Et vous racontez le contraire.
Parce que j'avais encore menti.
Pourquoi?
Je sais pas.
Il les prend les uns après les autres, et Gustave lui-même, le fils aîné, donc, c'est typiquement le lâche des albums de Zigépus. Donc on est tout le temps ramené plutôt vers le bas.
Il ne condamne ni l'innocente, Dominici. Il dit à un moment donné, il est innocent de profil et coupable de face. Donc il a 2 visages. Selon qu'on le voit du côté de l'audience judiciaire, il semble coupable, mais dès qu'on le décale du côté de l'imaginaire romanesque, il est plutôt innocent. Donc il ne se prononce pas, il ne juge pas, il ne plaide pas non plus. Il est en retrait par rapport à tout cela, il va être libre de son appréciation, sans entrer dans une défense de l'accusé, comme a pu le faire par exemple Zola, aux côtés de Dreyfus.
Le juge d'instruction déjà, le juge Périès, le commissaire de police Sébeille qui venait de Marseille et tous les gens qui ont vu de près, qui ont entendu les aveux, etc., ont été assez vite persuadés que le coupable c'était Gaston Dominici. Mais il fallait tout de même que ça reste en rapport avec l'enquête qui avait été faite auparavant. Et pour un certain nombre de gens, dont Giono, le dossier empêchait de savoir la vérité. Vous voyez, il l'a pris à l'envers parce qu'il n'avait pas idée de ce que peut être une enquête, de ce que peuvent être les documents qu'on récolte. Et pendant que ceux qui savaient avaient peur d'une erreur judiciaire, parce que ça, le juge me l'a dit, hein, il m'a dit, pendant tout le procès, nous, on a eu peur que tout se retourne contre Gustave, c'est-à-dire le fils aîné.
Vers 1h10 du matin, j'ai entendu des coups de feu, 5 ou 6. Puis des vagues cris. Et surtout, mon chien qui aboyait. Ouais, c'est tout ce que je sais.
Ah non, continuez, je vous prie.
Il m'a semblé voir le bras gauche de la petite fille qui se soulevait. Moi, j'ai rien dit à personne. Mais à partir de là, on n'a pas arrêté de me tracasser. Alors j'ai commencé à dire mes mensonges.
Quel mensonge?
Le 12 novembre, les policiers m'ont accusé de toutes sortes de choses. Ils m'ont dit qu'il faut en finir. Ils m'ont frappé même. Ils voulaient que j'accuse mon père. Aujourd'hui, je suis là pour dire la vérité. Mon père n'est pas coupable. Même le juge d'instruction, il voulait croire qu'il y avait mensonge. Mon frère Clovis m'avait montré un plan pour que je me rappelle de l'endroit exact où devait se trouver la carabine. Jamais cette carabine n'a été à la Grande-Terre. Mon père n'est pas coupable. Cette nuit-là, je ne me suis pas levé. J'ai rien vu, je sais rien.
Je vais lire vos derniers aveux.
Oh, c'est pas la peine, c'est tout du mensonge. Alors j'ai menti tout le temps. Puis c'est mon frère Clovis qui m'a forcé à raconter tout ça. Après ses aveux à lui.
Gustave Dominici, je n'ai jamais rencontré de témoin aussi vil que vous. Avec un luxe de détails terrifiant, vous avez accusé votre père d'un triple assassinat. Aujourd'hui, vous venez prétendre que vous avez inventé cette monstrueuse histoire pour faire plaisir aux policiers et aux juges d'instruction. Messieurs les jurés qui vous écoutent, apprécieront.
Gustave, il était au courant, il avait entendu, il avait vu un certain nombre de choses, mais il n'était pas sympathique, il ne regardait pas en face les gens. Il était très ennuyé parce qu'il avait dénoncé son père et il avait des remords probablement en même temps. Donc, pour lui, c'était tout à fait difficile. Alors, Giono dit, il a sa pomme d'Adam qui monte et qui descend tout le temps, et ça le dessert. Tandis que Gaston, il ne correspond pas du tout à l'imaginaire de l'assassin. Gaston, il est celui que tout le monde a envie de voir innocenté.
La défense a-t-elle des questions à poser à ce témoin?
Non, monsieur le président. Il faudrait être fou pour avoir devant cet homme une lueur d'espérance.
Gustave, je t'aimais et c'est toi qui m'as amené sur ce banc-là. Tu me renies. Mais tu commets un péché mortel. Tu sais très bien que je suis innocent. Regardez-le. Il laisse les champs en travailler. Il laisse pourrir la luzerne.
Oh non, laissons les récoltes tranquilles.
Mais il en faut des récoltes. Et alors, il sait qu'il en faut. Comme la carabine, il sait très bien où c'est qu'elle était. Il sait très bien qui c'est qui la tenait. Allez, Gustave, dis-le, dis la vérité. Qui c'est qui était avec toi dans la luzerne? Dis-le donc.
J'étais pas dans la luzerne.
Mais dis la vérité pour l'honneur de la famille.
Et j'y pense, père, vous êtes innocent.
Mais je te demande pas de dire si je suis innocent, je te demande de dire la vérité. Dis-le, qui c'est qui était avec toi dans la luzerne quand t'as entendu les cris? Dis-le, mais dis-le donc, mon Dieu, dis-le!
Audience est suspendue.
Jean Gabin.
J'ai lu et relu le bouquin de Giono et c'est ça qui m'a incité à le faire. Il y a une première partie qui sont des notes sur le procès d'après l'enquête et après, il a dépeint les caractères des personnages.
Et ça t'a aidé, toi, personnellement, pour le personnage de Dominici?
Je pense, oui.
Le procès, tu l'avais suivi, tu te l'as rappelé?
J'avais suivi, comme tout le monde, dans les journaux. Moi, j'étais pas chaud pour le faire. Puis alors, c'est en lisant le bouquin de Giono que j'ai trouvé qu'il y avait quand même un intérêt à le faire. Parce que finalement, qu'est-ce que tu veux, c'est une histoire... On n'a jamais connu les mobiles. On ne les connaîtra probablement jamais. Et puis il y a le reste. Alors le reste, c'est au public de juger.
Le président. Vous ne laissez rien apparaître de vos émotions. L'accusé. Pourquoi faire ?
Ce que j'ai dit, je l'ai dit, et je ne l'ai pas fait.
Le président. Les psychiatres disent que vous êtes normal. L'accusé. Diable, je ne suis pas fou, non ?
Je me sens bien.
Jean Giono ne prend pas vraiment parti, on ne sait pas ce qu'il pense vraiment de la culpabilité de Gaston Dominici.
Il dit que cette culpabilité n'est pas prouvée pour lui. Mais il ne dit pas pour autant qu'il est innocent. Donc il reste incertain par rapport au verdict qui a été prononcé.
Je ne dis pas que Gaston D n'est pas coupable. Je dis qu'on ne m'a pas prouvé qu'il l'était. Le président, l'assesseur, les juges, l'avocat général, le procureur sont des hommes dont l'honnêteté et la droiture ne peuvent pas être suspectés. Ils ont la conviction intime que l'accusé est coupable. Je dis que cette conviction ne m'a pas convaincu.
Ce qu'il y a de certain, c'est qu'après le verdict de mort qui était prononcé, le véritable scandale, ça a été, et Giono en parle dans ses notes, la présidence du juge qui a été à charge. Théolaire, dans ses comptes rendus, parle d'une inquisition sans répit. Donc le président de l'audience, un président un peu à l'ancienne, si vous voulez, a cherché à obtenir les aveux théâtralement du vieux Dominici à l'audience. Mais le vieux Dominici, il est malin. Il ne s'est pas laissé faire. Il est extrêmement rusé, si vous voulez.
C'est un vieux paysan, pantalon de velours, cheveux blancs, moustache, un peu gaulois, vous voyez, dans la physionomie. Et il plaît beaucoup aux médias, il plaît à tout le monde. Et c'est difficile de l'imaginer, lui, coupable.
Roland Barthes, dans cette fameuse mythologie dans les années 50, dit qu'il manquait de vocabulaire et qu'il y avait une inégalité dans la lexique, en quelque sorte, à la disposition des magistrats et celui qui était à la disposition du vieux Dominici. Mais je pense que l'infériorité lexicale, je dirais, de Dominici est largement compensée par sa capacité à réagir opportunément. Il y a notamment une scène où...
Giono aussi le dit.
Et Giono le dit aussi, absolument.
Il a 30-35 minutes.
Oui, mais je pense que Giono dit, comme Barthes, qu'il a peu de vocabulaire à sa disposition, mais il ne tire pas pour autant comme conséquence que ça a été fatal dans la culpabilité prononcée. Il dit, certes, la mort était dans le dossier, parce que le vocabulaire était insuffisant, mais il dit aussi que le vieux Dominici a su ruser avec le président pour éviter les chausse-trappes qui lui étaient tendues. Notamment, il y a notamment une scène au procès qui est racontée dans les notes, c'est quand le président lui dit « Mais cette femme, elle est tombée à vos pieds ?» pour espérer que Dominici tombe dans le piège. Il dit « Oui, elle est tombée. » Mais Dominici ne tombe pas dans le piège. Il dit « Mais demandez à l'accusé. »
Ici, une ruse extrêmement subtile du président. Il mélange avec une adresse diabolique le crime et la reconstitution du crime. D'après les experts en balistique, quand les coups de feu ont été tirés sur Lady Drummond, elle était debout ou couchée, c'est-à-dire ni à genoux ni courbée. Le président et l'accusé sont en train de parler de la reconstitution du crime et de la place qu'occupait le policier qui jouait le rôle de la femme. Ce policier était couché. Brusquement, le président demande.
Alors, Dominici, était debout ou couché ?
Toute la salle et moi-même avons le souffle coupé.
C'est moi qui étais couché.
Il n'ajoute même pas « dans ma chambre ». Il l'a déjà dit. On est tenté d'applaudir cette réplique de théâtre. Au moment où l'accusé a répondu, tous mes sens étaient en éveil et j'avais les yeux fixés sur son visage. Je n'ai rien vu de rusé. Je n'ai rien senti de faux.
Il fait des expériences littéraires, à proprement parler, et puis il cultive les personnages monstrueux, les âmes noires, les abîmes de l'âme humaine, et ce qui donne les âmes fortes, oui. Il fait une théorie des climats, à la façon de Montesquieu, si vous voulez. Sauf que là, ça se passe en Haute-Provence et dans une Haute-Provence qui est une Haute-Provence en grande partie imaginaire, hein, la Haute-Provence de Giono.
L'accusé a habité Brunet. Brunet est un village de la vallée de l'As. L'As est un affluent de la rive gauche de la Durance. Dans son cours supérieur et moyen, la vallée de l'As est étroite et son aspect est désespéré. Le soleil y pénètre 3 heures par jour pendant l'été et à peine 1 heure l'hiver. Le torrent a tranché dans des schistes noirs. La végétation est rabougrie. Ce sont des chênes nains, des buis, des foins rats qui, dès l'automne, sont comme du poil de renard, et sur lesquels le printemps ne marque pas, même par une pâquerette.
Je connais un pays sauvage, il écrit dans des chroniques journalistiques. Bon, la Provence, ce n'est pas du tout ce qu'on croit, c'est un pays de solitude, un pays austère, un pays où il y a très peu de ressources, où les gens habitent des petits villages qui sont des nids de guêpes, très éloignés les uns des autres. Il y a peu de distractions, il n'y a pas grand-chose à se mettre sous la dent pour vivre intensément et de façon intéressante. Et donc, ce pays a créé des solitaires qui cherchent la passion qui va pouvoir les intéresser toute leur vie. Et cette passion, je vous disais, chacun la trouve à sa façon, mais très souvent, ça a quand même un rapport avec la perte des autres, la domination plutôt des autres. On a des personnages de ce genre partout dans le haut pays de Giono. Et alors là, dans les notes, on a un certain nombre de personnages qui sont issus de l'affaire Dominici. Alors, vous voyez, l'affaire Dominici, les Dominici sont nourris de la vision de Giono et en même temps, ils ont nourri l'œuvre de Giono.
Le président s'adressant à l'accusé. Êtes-vous allé au pont ? Il s'agit du pont du chemin de fer. L'accusé. Allez ? Il n'y a pas d'aller, je le sais, j'y suis été. Pour lui, qui n'emploie jamais le verbe aller, pour dire aller au pont, aller à la vigne, aller à la ville, il croit qu'il s'agit de substantifs, une allée d'arbres, une allée de vignes.
Est-ce que pour un magistrat, ce livre, ces notes ont un intérêt dans le cadre d'un procès, par exemple, Denis Salas ?
Oui, je pense que ce livre, moi je le recommande aux magistrats. On fait des séminaires sur droit et littérature ici à l'école de la magistrature et nous travaillons sur ce texte majeur pour la raison très simple, c'est qu'il nous initie aux arcanes du procès lui-même, à sa tension la plus profonde, qui est comment va naître une vérité, qui est toujours aléatoire, difficile, d'une situation d'oralité dans laquelle nous sommes tous plongés et qui est progressivement approchée, mais qui reste toujours plongée dans une zone d'ombre. Donc la délibération collective va essayer de repousser la zone d'ombre pour toucher la zone de vérité. C'est toujours cette humilité que le magistrat doit avoir quand il juge.
Il aurait été excellent que la première phrase du président soit celle-ci. Avant de commencer, nous allons d'abord nous entendre sur la valeur des mots et la place des pronoms dans le discours. Monsieur Rozan me fait la grâce de ne pas être très étonné par ce que je viens de lui dire. Par la suite, il sera tellement de mon avis qu'il en fera état dans de nombreuses interventions.
Il s'inscrit dans une tradition du roman français tiré du 18e, 19e, où le romancier prend parti, se met du côté de l'accusé, face à une justice qui pratique la peine de mort. Je rappelle que Dominici sera condamné à mort.
Il a été condamné à mort, et la peine a été commise aux travaux forcés à perpétuité par le président Coty. Et le président de Gaulle l'a fait sortir complètement après. Pour moi, il n'est pas coupable.
Giono le dit et soulignera ensuite la nécessité d'une grâce ou d'une révision du procès.
Garde, faites sortir l'accusé.
Je ne tire aucune conclusion en ce qui concerne le crime. L'accusé est peut-être coupable. Cela n'a rien à voir avec la vérité que j'ai essayé de chercher dans ses caractères. Quand on a terminé son interrogatoire, très court, Écube va s'asseoir dans le public. Peu après, l'audience est suspendue. Dans le brouhaha qui suit, la vieille femme monte sur une chaise pour revoir son mari qu'on emmène. Et elle pleure. Jean Giono, 1er janvier 1955. Orson Welles et Jean Giono dans l'affaire Dominici. Avec Christophe Cognier, François Thomas, Mireille Sacotte et Denis Salas. Les entretiens de Jacques Chaput et d'Alain Paul ont été réalisés par Christophe Cognier dans le cadre de son documentaire « L'affaire Dominici » par Orson Welles, coproduit par La 8 et Grey Film C. Pierce.
Ah dis donc, tu me suis partout, toi.
Oui, monsieur.
vais dormir là.
Jean Gabin, l'affaire Dominici de Claude Bernard Aubert, 1973. Archivina, Stéphanie Place. Documentaliste, Colette Ducard. Coordination, Christine Bernard. Prise de son, Julien Douming. Mixage, Olivier Dupré. Un documentaire de Stéphane Bonnefoy, réalisé par Jean-Philippe Navarre.
Retrouvez sur le site de l'heure du documentaire des photos, des liens, des vidéos et toute une bibliographie afin de prolonger votre écoute. L'été se termine et la semaine prochaine, le documentaire fait sa rentrée. Vous retrouverez ainsi LSD, la série documentaire et une histoire particulière. Mais tout de suite, nous retrouvons la chronique de Christophe André, La vie intérieure.